Lizzie présente Les Petits de décembre de Kauter Adimi. Lu par Virginie Méry. À Koteb, un des petits. L'enfant cherchait une route à peine tracée. Il y allait à tâtons. Le chemin se perdait, noyé sous la pluie, et tombait la pluie. Mohamed Dib, l'enfant jazz. Chapitre 1. Alger en février. Ces bourrasques de vent, sa pluie fine, ses températures qui chutent. La ville se noie et noie avec elle ses habitants. On peine à marcher à cause de la boue. On hésite avant de sortir, on n'est jamais assez couvert. Les bus sont gelés, les portes des salles de classe claquent à cause des fenêtres brisées. Les draps étendus sur les terrasses sont imbibés d'eau. Le ciel aux nuages gris est lourd, gorgé de pluie qui bientôt inondera certaines villes du pays. Les arbres aux branches qui craquent tant et tant qu'ils effraient les passants. Les oiseaux qu'on n'entend plus. Les enfants rentrent trempés de l'école, leurs petites chaussures maculées de boue. Dans le centre-ville, les voitures circulent difficilement. Des policiers habillés de bleu ont revêtu des cirés transparents. Ils tentent de mettre un peu d'ordre dans la circulation. Servent-ils réellement à quelque chose? Sont-ils plus utiles qu'un vulgaire feu tricolore? La réponse est sans appel. Et 100% des Algériens considèrent qu'ils sont bien plus souvent à l'origine de l'atroce circulation qui règne dans la ville blanche que de sa régulation. Les policiers eux-mêmes le savent, ce qui les rend facilement agressifs. Être muté à la circulation est perçu comme une punition, voire une humiliation. Tout petit chef à la moindre contrariété peut imposer à son subalterne d'aller passer plusieurs semaines posté à un rond-point en plein hiver ou sous un soleil de plomb au cœur de l'été. Un immense bouchon s'est formé à côté du ravin de la femme sauvage. Les automobilistes enragent, des insultes fusent. On avance millimètre par millimètre. Sur les sièges arrière, les enfants tentent d'apercevoir à travers les vitres embuées cette fameuse femme sauvage qui les fascine. Il paraît qu'au XIXe siècle, elle vivait dans le coin avec ses deux enfants qu'elle élevait seule depuis le décès de son mari. Un jour où il faisait particulièrement beau, la petite famille alla pique-niquer dans les bois jouxtants Oued Kniss. Les enfants adoraient s'y balader. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher du ravin très dangereux, mais c'étaient des enfants peu obéissants qui aimaient courir et se chamailler. La mère, épuisée, fit une petite sieste sous un arbre. À son réveil, plus d'enfants. Les voisins, les amis, les gendarmes fouillèrent les environs. À la nuit tombée, on suspendit les recherches. La mère refusa de rentrer chez elle, continua de hurler les prénoms de ses chers petits. Elle devint folle. On ne put jamais la convaincre de quitter la forêt. On raconte que certains soirs, on peut encore l'apercevoir aux abords du ravin. Ceux qui l'ont déjà vue jurent qu'elle erre vêtue de haillons dans le quartier du ruisseau. Il faut bien regarder et ne s'approcher qu'à pas furtif, car si elle vous aperçoit ou si elle entend le moindre bruit, elle court se réfugier derrière de touffus buissons. Les gouttes de pluie qui font la course sur les vitres des voitures brouillent la vue et même en écarquillant les yeux, les enfants n'arrivent pas à distinguer la silhouette de la femme sauvage. Les routes sont un cauchemar. Les klaxons résonnent dans l'indifférence générale. Les voitures circulent difficilement et les conducteurs, agacés, tendus, fatigués, finissent par rouler sur les trottoirs ou par emprunter les voies de secours. De temps en temps, un policier utilise son sifflet en faisant de grands gestes avec ses bras. « Passez, passez, allez !» Ou s'il est mal luné, si la tête du conducteur ou de son passager ne lui revient pas, il fait un seul et bref signe du bras, invitant le malheureux à se garer sur le bas-côté, ce qui crée encore plus d'embouteillages. Débute alors un long marchandage entre le conducteur et le policier, qui bien souvent se termine par le retrait du permis de conduire. Si le pauvre diable a un membre de sa famille dans la police, la gendarmerie, l'armée ou qui simplement travaille à la mairie, il peut espérer le récupérer rapidement. Dans le cas contraire, sa vie devient un enfer car il est difficile de se déplacer dans Alger sans voiture. En ce mois de février 2016, dans tout le pays, on espère qu'il n'y aura pas d'inondation dévastatrice, pas de mort, que les récoltes ne vont pas finir noyées. La pluie est une bénédiction de Dieu. Nul ne l'ignore. Et tout le monde est d'accord avec cela. Mais au fil des jours, cette bénédiction se fait de plus en plus longue, lourde et gênante. Dans certaines régions, la pluie a inondé des villages entiers. Les rues sont jonchées de branches, ferrailles, tôles, déchets. Les bus qui relient habituellement les hameaux isolés aux villes les plus proches sont forcés de stopper leur liaison pour un temps indéterminé, privant les adultes de leur travail et les enfants de leur école. Dans le centre du pays, la télévision a filmé et retransmis des images de voitures emportées par des torrents d'eau et de boue. Les gens se plaignent que l'État n'envoie pas de secours et que si peu de pluie puisse paralyser l'ensemble d'un pays, mais personne n'ose critiquer trop vivement la pluie. Elle est l'œuvre de Dieu. On a quand même un peu peur. On n'oublie pas qu'en 2001, des inondations ont détruit le quartier de Bab el-Oued, causé près de 1000 morts et coûté des millions de dinars. Certains corps n'ont jamais été retrouvés et des enfants devenus de jeunes adultes continuent d'espérer que leur mère ou leur père finira par rentrer, même après autant d'années. À défaut de tombes, des centaines d'histoires. À la cité du 11 décembre de Deli Brahim, plusieurs hommes déposent de grands cartons dépliés devant les maisons pour créer un semblant de passage sec. La veille, à cause de la boue, Adila, une ancienne Mujahida bien connue du quartier, est tombée et ne se déplace plus qu'appuyée sur une canne. La mairie, malgré de nombreuses réclamations, refuse de goudronner les petites rues qui mènent aux maisons. Seules celles conduisant aux demeures des généraux sont propres et régulièrement entretenues. La cité du 11 décembre existe depuis 1987. Elle comprenait à l'origine 111 parcelles sur lesquelles, pour certaines, étaient déjà construites d'anciennes maisons coloniales. Il est assez facile de les distinguer. Elles ne font pas plus d'un étage, alors que les constructions modernes, elles, s'élèvent sur deux ou trois niveaux. Tous les lots ont été vendus à des militaires sans pour autant que cette cité ne soit désignée comme une cité militaire. À ces 111 parcelles, on en ajouta 74 nouvelles par la suite. Au centre de cet ensemble, face à la maison d'Adila, il y a un terrain grand d'environ 1,5 hectare, en dessous duquel passaient, jusqu'en 2010, les conduites de gaz. Quels étaient les plans de l'urbaniste, de l'architecte ou du fonctionnaire de l'époque pour ce grand terrain? Ils imaginaient sans doute y planter des arbres, fabriquer quelques aires de jeu, installer des bancs et aménager des pistes pour que les retraités puissent jouer à la pétanque. Rien ne fut fait. On le laissa ainsi à l'abandon. Tout comme on ne goudronna pas les petites routes qui mènent à la centaine de maisons. La ville refusa de payer, arguant que la cité avait été commandée par le ministère de la Défense, et ce dernier ne prit jamais la peine de répondre aux quelques demandes des militaires qui, étant il est vrai habitués à la discipline et au respect de l'institution, n'écrivirent que des courriers très polis, peu insistants et bien sûr jamais menaçants. Le terrain resta inoccupé pendant quelques années. On pouvait parfois y apercevoir des chiens errants. Aucune trace de petite fille jouant à la corde à sauter ou à l'élastique, pas de balançoire, pas de vieux retraités lançant des boules de pétanque. Juste un terrain sale, boueux les jours de pluie, extrêmement sec le reste de l'année, plein de pierres et de roches, de broussailles poussées par les vents qui peuvent être puissants en hiver, et quelques poubelles abandonnées. Un jour, il y a 20 ans peut-être, un groupe d'enfants entreprit de le nettoyer, de bricoler des buttes de fortune, de délimiter des zones et de créer ainsi un terrain de football. Et depuis 20 ans maintenant, ou peut-être un peu moins, les enfants et les jeunes de la cité, mais aussi de tout le quartier et de ses environs, ont disputé des milliers de parties de foot. Oh, il ne s'agit pas d'un terrain de football comme on peut l'imaginer. Oubliez le gazon vert, le tracé parfait, les filets de but. À première vue, on dirait un terrain vague. À première vue seulement.